Vous m'en direz des nouvelles au Festival d'Avignon, en direct du Conservatoire du Grand Avignon, en partenariat avec la SACD. Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Victor Hull,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ce qu'il y a de bien avec le Festival d'Avignon, c'est la diversité. On en a déjà eu quelques exemples depuis le début de la semaine, mais le spectacle dont nous allons parler dans un instant est plus qu'un exemple, il est exemplaire. Il se présente sous la forme d'une très officielle conférence pendant laquelle Amina Gina, Gustave Akakpo et Métis Navarro posent la question suivante. La diversité est-elle une variable d'ajustement? Et ils proposent aux spectateurs de voter pour désigner celui ou celle des trois qui aura la lourde charge d'être le ou la représentante de la dite diversité. C'est édifiant, plein d'humour, ça pose bien des questions, sans forcément y répondre à toutes franchement d'ailleurs, et c'est sans doute mieux ainsi. Mais pour commencer, Christophe Reynaud-Delage, une mémoire photographique du festival dont il suit toutes les éditions depuis 2005. Ses photos sont de véritables œuvres d'art et elles s'exposent comme telles à la Maison Jean Vilar. L'exposition L'œil présent est à découvrir jusqu'à fin mars 2023 et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Christophe Reynaud-Delage.
Bonjour.
Sur l'un des murs de l'exposition, il y a une phrase de Claude Bricage, autre spécialiste de la photo de théâtre qui a travaillé entre autres avec Chéreau, Vitesse, Sobel, Vincent et quelques autres. La photographie de théâtre, disait-il, c'est mettre en scène le théâtre lui-même. Vous êtes donc, vous aussi, un metteur en scène, Christophe Reynaud-Delage.
En tout cas, c'est une tentative, ça c'est sûr, puisque Claude a quelqu'un que j'ai rencontré à mes débuts, qui a compté pour moi. Et finalement, le sens de cette exposition, c'est une tentative de mise en scène de la photographie de théâtre.
Ça veut dire que vos photos doivent servir le spectacle, elles doivent le magnifier, elles doivent donner envie et emporter témoignage?
Moi, je me suis toujours senti comme un auteur, donc je raconte aussi des histoires. Là, je raconte mon histoire à travers le Festival d'Avignon, les éditions que j'en ai faites. Et donc, j'ai structuré l'exposition en 5 actes. Comme une pièce. Et il y a donc une dramaturgie, il y a aussi une scénographie, il y a aussi de la lumière, du son, des accessoires, tous les ingrédients qui font un spectacle.
Alors, il faut aussi garder une part de mystère, parce qu'une autre phrase qui était inscrite sur l'un des murs, c'est une phrase de Diane Arbus, « Une image est un secret, plus elle vous en dit, moins vous en savez ». C'est une phrase que j'imagine vous reprenez complètement à votre compte. C'est ça, finalement, le travail de la photographie théâtre.
Finalement, c'est aussi ce qui se passe. D'ailleurs, elle est au-dessus de ma boîte de la réminiscence, où justement, après, c'est au spectateur, au public, de aussi s'emparer des images, de se la raconter avec leur vécu, et puis et du coup, elle leur est livrée, elle leur appartient, et ils se racontent leur histoire.
Alors, votre travail à vous, Christophe Reynaud-Delage, j'imagine qu'il passe par une relation très étroite avec les metteurs en scène. À quel moment de la création est-ce que vous intervenez pour la première fois?
Alors moi, c'est vrai que le sens de mon travail, c'est un accompagnement. Donc en plus, le reste de l'année, en dehors du festival, je travaille beaucoup de compagnies. Et c'est vrai que des fois, je viens très tôt sur des répétitions. J'essaie de commencer à comprendre le processus et je l'accompagne. Et parfois aussi, certains metteurs en scène s'en nourrissent, ont envie de s'emparer des images pour essayer des choses. Et puis,
Donc vous travaillez de concert avec lui, avec le metteur en scène.
Oui.
Vous avez le texte, vous discutez avec les comédiens, vous participez
non,
avec
les
plateaux. Non,
je reste un regard attentif. C'est-à-dire, c'est pas moi, je fais pas la mise en scène, encore une fois.
Non.
J'amène simplement un point de vue dont il peut s'emparer s'il a envie pour construire son spectacle.
Mais alors, pour les photos, à ce moment-là, est-ce que vous faites des propositions au metteur en scène ou c'est lui qui vous donne des directives en vous disant « vous devriez plutôt vous placer là pour photographier telle scène de telle ou telle façon ?»
Souvent, d'ailleurs, je suis vraiment libre. Pour ça, c'est vrai que du coup, j'ai une forme d'autonomie.
Ils ne sont pas interventionnistes, les metteurs
en scène ? Non, non. Enfin, souvent, en plus, parfois, ils le font d'ailleurs très gentiment pour m'aider, mais je dirais souvent, ils se trompent sur la vision de leur propre spectacle. Quand ils me disent « là, c'est le meilleur point de vue », souvent, ils se trompent. Et malgré tout, le spectacle, il peut être vu par plusieurs spectateurs à des endroits différents et que parfois, ils ont des fois, pour certains, un rapport peut-être central, mais qui n'est pas unique, en fait. Donc, justement, j'essaie d'apporter des contrepoints.
Mais quand vous photographiez, vous êtes un spectateur.
À toujours.
Un spectateur averti.
Oui, mais
pas un spectateur lambda qui découvrirait le théâtre pour la première fois.
Je reste un spectateur. Ça, c'est quand je regarde un spectacle, je reste un spectateur. C'est ma place.
Sauf que parfois, vous êtes aussi en coulisses, vous êtes aussi aux côtés des comédiens. Mais les spectateurs n'ont pas accès aux coulisses, Christophe Redondelage. Vous avez cette chance-là de voir effectivement ce qui se passe backstage.
C'est une confiance que me donnent les artistes, en fait.
Et donc là, vous avez une double casquette, en quelque sorte. Vous faites partie
je rentre dans l'intimité
des spectateurs, mais vous rentrez aussi dans l'intimité des artistes.
Oui, mais je reste spectateur dans les coulisses et avec bienveillance aussi, en tout cas, parce que cette confiance qui m'est accordée dans cet accompagnement fait que il y a des choses que je peux photographier, d'autres que je m'autorise pas à photographier aussi.
Oui, ça fait partie de votre éthique personnelle de photographe. Qui choisit les photos qui ensuite seront publiées, alors qu'il s'agisse du site du Festival d'Avignon, de toute la communication du festival, mais aussi de la presse?
Alors, c'est vrai que mon rôle aussi au sein du Festival d'Avignon, c'est un rôle qui est aussi lié à la communication. Et donc, il y a différents temps pour la photographie. Là, tous les jours, j'ai rendez-vous avec ma directrice de la communication. Tous les matins, je livre ce que j'ai fait la veille. Et donc, tout ça, c'est le rythme d'Avignon. Mais ça, c'est un réseau de communication. Et après, il y a circuit presse, réseaux sociaux, Internet, etc. Et malgré tout, dans cette exposition, je vais pouvoir montrer des choses qu'on n'utilise pas en communication. Des photos de coulisses, on n'utilise pas. On ne montre pas ça. Je peux montrer plein d'autres choses qui, justement, ne servent pas à la communication, mais à la fois, elles racontent quand même le festival.
Et donc, personne ne va vous dire, à cette photo-là, il ne faut pas que ça sorte dans la presse. C'est vraiment vous qui décidez, puisque en matière de communication, il y a des stratégies, des tactiques de communication,
oui, non,
des plans.
C'est vrai que personne ne m'a dit, effectivement... Heureusement, non, c'est encore une fois, ça reste un espace de liberté pour moi.
Vous m'en direz des nouvelles au Festival d'Avignon. Sur RFI.
Quelques notes de la musique de Raymond Haddad, le compositeur qui accompagne donc en musique Milk, le spectacle du Palestinien Bachar Mourkous dans cette édition du Festival d'Avignon, VMDN sur RFI, avec le photographe du festival Christophe Redondelage qui expose à la maison Jean Villard. L'exposition s'appelle L'œil présent, sous-titre Photographier le Festival d'Avignon au risque de l'instant suspendu. Alors c'est quoi un instant suspendu, Christophe Redondelage?
C'est bien de le souligner parce qu'effectivement ce sous-titre a beaucoup d'importance. Et le risque, l'instant suspendu, en fait, c'est justement la photographie qui rencontre le spectacle vivant. Le spectacle vivant, comme les artistes souvent ont cette conscience-là, c'est-à-dire que chaque représentation reste unique. Le lendemain, ce n'est pas exactement la même pièce qui se rejoue. Et il y a beaucoup de facteurs qui... Et donc, justement, c'est cette rencontre de l'instant suspendu. C'est un moment précis. Et du coup, dans l'exposition... il y a presque un parcours parallèle que j'ai eu envie d'affirmer. Donc il y a à chaque fois évidemment le nom de la pièce, l'artiste, le lieu. Il y a le jour, l'heure, la minute et la seconde de chaque image.
C'est le principe du spectacle vivant. Rien n'est pareil évidemment d'une représentation à une autre. Mais pourquoi parlez-vous de risque ?
Parce que c'est le risque, c'est ce qu'on n'arrive pas forcément à saisir. C'est-à-dire que c'est à chaque fois, j'y mets tout mon cœur. Et à la fois, le risque, c'est effectivement, ça peut être la chute, d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire, je ne réussis pas à tous les coups.
Bon, en tout cas, le risque existe aussi parce que les photos, elles restent, évidemment. Oui. Et vous participez à travers toutes les photos que vous avez prises et que vous continuez à prendre, Christophe Redondelage, à la mémoire du Festival d'Avignon, la mémoire de l'histoire du théâtre aussi, puisqu'elle passe évidemment parmi d'autres lieux, mais lieux ô combien prestigieux, par Avignon. Vous êtes donc aussi un historien de l'image, de théâtre.
De fait, je finis parce que, disons que les années s'accumulent, effectivement. Et puis, Le rapport à la mémoire, il est, pour moi, d'emblée, il a été important. D'abord parce que quand je suis arrivé au festival, j'avais très envie de savoir ce qu'avaient fait mes prédécesseurs, et je me suis rendu compte que s'il y avait eu une mémoire, elle était dispersée. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Il y aura une conférence avec la BNF sur la photographie de théâtre. C'est vrai que le rapport à la mémoire, en image, c'est quelque chose qui est un peu chahuté avec aussi la communication numérique où tout va très vite. Mais moi, dès le début, la conscience de cette mémoire-là, c'est-à-dire que dès que j'ai fini un spectacle, ces photos-là, c'est plus important que mon matériel parce que je ne les referai jamais. Il y a des rencontres qui ne se font qu'une fois.
Alors, l'exposition insiste beaucoup sur les lieux du festival. Le parcours emmène d'ailleurs le visiteur d'un lieu à un autre. Alors, il y a la prestigieuse cour d'honneur du Palais des Papes. Il y a un lieu immense en extérieur qui s'appelle la carrière de Boulbon, qui est vraiment impressionnante quand on y va. Il y a les cloîtres, il y a les cours intérieures, il y a les jardins, comme le très intimiste jardin Sécano. Il y a les gymnases des lycées de la ville d'Avignon. Il y a la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Il y a les salles de théâtre plus ou moins classiques, mais qui ne sont jamais des salles complètement classiques non plus. Il y a aussi des lieux qui accueillent les spectacles itinérants du festival. Il y a des centres pénitentiaires, par exemple. Il y a des garages automobiles. Ça fait beaucoup de situations extrêmement différentes. Comment est-ce que vous appréhendez un lieu ? En plus, je crois que vous avez commencé par la photographie urbaine.
Alors, par le théâtre de rue, plus précisément. C'est vrai que, du coup, j'ai déjà appréhendé l'espace public. Et de toute façon, je pense que ce qui fait aussi le succès d'Avignon, c'est finalement par rapport au lieu. C'est que parce que les lieux, c'est ce qui nous rassemble. C'est de la façon dont ça nous rassemble. La cour d'honneur nous rassemble d'une certaine manière, mais aussi finalement tous ces lieux religieux aussi. Un cloître, ça, c'est aussi une communauté qui nous... Enfin, pour moi, c'est quatre côtés aussi. Donc c'est... Tous ces lieux font qu'on vit quelque chose d'unique et aussi... Enfin, qui sont liés aux lieux, en tout cas. Forcément, on perçoit les lieux. Qu'on soit croyant ou pas croyant, quand on rentre dans un espace sacré, bien on parle plus bas, on a une écoute différente. Donc tout ça, et on est dans un rapport de communauté.
Et donc on ne photographie pas le même spectacle dans deux lieux différents, de la même façon, rien à voir.
Par exemple, l'itinérance, justement, ça s'adapte. Si vous êtes à la fois dans une salle culturelle ou si c'est à l'extérieur, comme au château de Vaqueras, forcément, vos sensations vont être tout à fait différentes.
Alors pour photographier les spectacles, ceux de la cour, de la cour d'honneur ou les autres, vous pouvez vous percher dans une tour, monter sur une colline, vous positionner sur la terrasse du cloître, mitrailler depuis les gradins avec les spectateurs, en coulisses, sur le côté, de face.
Exactement, voilà. J'ai cette liberté. Alors, aujourd'hui,
comment vous choisissez justement ?
Aujourd'hui, ça paraît évident, mais en fait, c'est que ça, j'ai gagné avec le temps. Cette confiance aussi qu'on me donne de pouvoir déambuler en public parmi...
Mais vous improvisez pendant le spectacle vous avez un plan très très précis pour telle scène, à tel moment, je suis à tel endroit avec tel type d'appareil ou d'objectif ?
Par exemple, je suis attaché à force, enfin, par rapport à certains lieux comme la cour d'honneur. Une fois que j'ai vu le spectacle en bas, ça ne me suffit pas. Va falloir que je le revoie d'en haut, en fait, effectivement. Évidemment, là, par exemple, vous avez des photos que j'ai faites pendant les nuits de Wajdi, où il y avait l'aspect qui se passait toute la nuit. Et donc, pour pouvoir voir ce lever du jour et puis surprendre, finalement, les spectateurs dans leur réveil progressif, donc il fallait que je sois en face. Donc, forcément, il y a des endroits. Vous avez aussi, dans le Inferno de Romeo Castellucci, quand vous avez ce grand voile blanc qui recouvre entièrement les 2000 spectateurs, évidemment, là, je sais où je dois me placer.
La cour d'honneur, c'est considéré comme un défi absolument incroyable pour un metteur en scène, pour un comédien aussi, pour un photographe, c'est la même
aussi,
chose.
Oui, parce que mon cadre, il est petit quand même.
Oui, alors comment on fait ?
On réfléchit quand même, mais en tout cas, on achète des optiques spécifiques pour ça aussi, mais aussi, on prend des points de vue en hauteur,
Alors, parmi les photos que l'on peut voir, il y a celle du spectacle d'année d'Ivo Vanov. Il y a d'ailleurs toute la séquence que l'on peut découvrir dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, cette photo-là qui est devant vous et qui figure dans le catalogue de l'exposition ?
Oui, c'est le moment où tous ces morts qui ont été, pendant tout au long du spectacle, tous ceux qui ont été assassinés par les nazis, les urnes sont vidées dans une grande vasque et remplies de cendres. Et donc, ensuite, le comédien arrive sur scène et va donc s'asperger de cendres. Et se trouve qu'en plus, ce jour-là, et vraiment, quand on parle d'instant suspendu, c'est le cas. C'est la magie d'Avignon, c'est qu'il y a le Mistral, les éléments s'y mettent. Et là, il y a eu un fort Mistral qui fait que du coup, il y a eu une vague, les cendres sont parties jusque vers le public.
Donc là, vous saisissez l'instant. Là, pour le coup, c'est vraiment un instant unique parce que...
Le Mistral sera pas au même endroit au même moment. Et
voilà, oui, voilà, ça peut perturber les...
Oui, ça peut perturber, comme ça peut aussi le magnifier. Je crois que, en tout cas, à la première du Moine Noir, cette année, le Mistral a fait claquer le plastique des maisons et ça tombait incroyablement à un endroit, on a l'impression que c'était fait pour.
Bon, s'il pleut, qu'est-ce qui se passe ?
Ben, s'il pleut, des fois ça s'interrompt et ça reprend. Enfin, l'année dernière, sur la Cerisée, effectivement, il y a eu une perturbation, ça s'est arrêté, mais les gens ont aussi vécu quelque chose d'extraordinaire. Enfin, il y a finalement, les éléments s'y mettent, mais le public, il fait avec, il l'intègre.
Alors, votre travail de metteur en scène, Christophe Reynaud-Delage, vous le faites évidemment aussi à travers la lumière. C'est évidemment l'outil de travail, si j'ose dire, du photographe. Il y a la lumière que vous apportez, puis il y a la lumière du spectacle aussi. Elle est forcément photogénique, la lumière d'un spectacle. Alors, au Festival d'Avignon.
Moi, la lumière dans le spectacle, je ne la fais pas. C'est vrai.
Mais vous devez en tenir compte.
Exactement. En fait, ma seule intervention par rapport à la lumière, c'est parce que finalement, le point de vue modifie justement mon rapport à la lumière. Et donc, mon point de vue, ma position, fait que, par exemple, si je suis en contre-jour ou si j'ai une lumière face, ça change énormément de choses. Donc, malgré tout, je joue avec l'existant, mais en tout cas, je prends en compte la lumière.
Alors, on a l'impression, et là, je pense à cette photo qui est devant moi, et elle résonne évidemment à la fois à mon oreille et à mon œil, si j'ose dire, parce que c'est un spectacle que j'ai vu et dont
c'est
on a parlé
musical,
dans cette émission.
C'est, normal,
et voilà, c'est un spectacle musical. Voilà, c'est pour ça. C'est la photo, une des photos d'un spectacle de François Chéniaud, Romances in Certos, prise exactement dans le cadre du cloître des Célestins,
exactement,
qui est un des lieux d'Avignon que je préfère personnellement. Aussi, et c'est vrai que là, on a l'impression que vous jouez à fond avec les noirs, quoi, avec le contraste entre la lumière et le noir du cloître, les lumières naturelles et en même temps les lumières du spectacle un peu jaune-orangé.
Ben là, il y a un moment où finalement, il surgit vraiment dans l'arche d'un seul coup dans la lumière. Il était vraiment caché dans cette pénombre et tout. Il surgit au dernier moment. C'est une apparition et en plus, elle est superbe comme apparition.
Voilà. Qu'est-ce qui vous permet de dire, Christophe Reynaud-Delage, que cette photo-ci, parmi toutes les autres que vous prenez, eh bien vous allez la garder ou au contraire d'en écarter la suivante ou
la
prochaine.
C'est toujours un choix difficile en fait, c'est ça l'instant décisif. Et alors je pense que finalement c'est quand même lié à une émotion, puisque dans le sens de mon travail, je ne fais pas de l'illustration à proprement parler, puisque je suis le spectacle vivant, j'essaye de transmettre une émotion. Donc si je sens quelque chose au moment où je déclenche, c'est là où je réussis, je pense, l'image.
Vous travaillez aussi du côté des spectateurs. Il y a quelques photos de public, quelques photos de spectateurs. Les spectateurs dans une salle et les acteurs sur une scène, ça ne se photographie pas du tout de la même façon. Parfois, il y a les deux.
Il y a moins de lumière,
déjà. Il y a moins de lumière.
Il y a moins de lumière pour le public.
Mais le problème des spectateurs, c'est qu'ils sont très nombreux. C'est qu'on ne veut pas prévoir comment ils peuvent évoluer. Il y en a peut-être qui vont bouger, il y en a peut-être qui vont applaudir, il y en a peut-être qui vont se déplacer. Il y a des regards. Alors que les comédiens, vous qui travaille en préparation du spectacle, vous avez une idée de ce qui va se produire, même si évidemment toutes les représentations sont particulières.
Le spectateur,
parfois, c'est plus compliqué.
C'est des fois plus statique aussi, puisque finalement, heureusement, ils sont dans une écoute. Mais quand même, ça passe par les regards. Moi, vraiment, il y a des fois ça m'est arrivé de voir des spectateurs pleurer, par exemple, ou être troublés, ne plus arriver à regarder. C'est troublant aussi de voir ce que ressentent les spectateurs. Ça se voit.
Ça veut dire, si je comprends bien, qu'au moment le plus poignant du spectacle, moi qui ne suis pas photographe, j'aurais plutôt tendance à dire, je vais prendre la scène parce que c'est un moment poignant. Vous tournez et vous regardez plutôt les spectateurs.
Oui, parce que des fois, justement, je m'intéresse aussi à ce qui se passe d'une certaine manière, hors champ pour moi. Et en tout cas, j'essaie d'avoir des points de vue aussi parfois décalés. Et par exemple... il y a une photo dont parle un jeune lycéen, Malik, de la Cerisée. Et il se trouve que c'est un point de vue que j'ai fait complètement sur le côté, en fait. Donc, c'est vrai que j'aime bien les décalages. Et pourtant, c'est l'arrivée de la Cerisée. Ils arrivent tous à la Cerisée. Et moi, je suis à l'inverse de la vision du spectacle. Malgré tout, c'est l'arrivée à la Cerisée. Ça s'ouvre comme ça. Mais c'est un point de vue décalé. Pour moi, finalement, il y a plein de détails dans un spectacle qui sont intéressants à montrer et qui racontent le spectacle.
Depuis le début du festival, vous avez fait combien d'images, Christophe Renaud-Delage ?
J'en fais 1000 par jour.
1000 par jour ?
Oui.
Ah oui, d'accord. Donc vous allez jusqu'au bout, évidemment, du festival cette année. Et vous récidivez l'année prochaine ?
Ben, j'espère, mais on verra.
Merci beaucoup, Christophe Renaud-Delage, d'être passé par le studio de RFI ici à Avignon. L'exposition L'œil présent à découvrir à la maison Jean Villard jusqu'à fin mars 2023. Donc si vous passez par le sud de la France, vous avez le temps. Et je précise aussi que le catalogue de l'exposition est disponible aux éditions Théâtre.
On démontait des voitures, on découpait nos blousons. On désertait nos lits pour dormir sur le gazon. Sur le ventre de la lune, on écrivait des chansons. Où l'on était les héros de fortune. Sur nos vieux vélos rouillés, perchés nos illusions. On dévalait les pentes, on s'accrochait au guidon. Et quand les vieilles nous disaient qu'on finirait en prison, nous on rigolait comme le font tous les mauvais garçons. Les mauvais garçons. On s'était spécialisé dans le domaine de l'évasion. On écourtait l'école pour attraper des grillons. Et sous nos doigts, les cahiers se transformaient en avions. Qu'on regardait décoller sous un soleil de plomb. On se partageait les filles, les agates et les bonbons. Quand il y avait des balles, on débarquait en caleçon. Parfois on passait l'été sans rentrer à la maison. Car c'est ainsi qu'elles vivent libres les mauvais garçons. Les mauvais garçons. Illusions. Voyez, voyez comme la vallée résonne. Calé, calé, pâchez nos ambitions. Fuyez, fuyez les lendemains monotones. Calé, calé, pâchez nos illusions. Voyez, voyez comme la vallée résonne. Calé, calé, pâchez nos ambitions. Car c'est ainsi qu'elle vous étonne, les mauvais garçons.
Musique dans VMDN sur RFI avec les mauvais garçons. Sarah Minkowski en concert ici à Avignon jusqu'au 17 juillet. C'est à 16h30 au théâtre de l'Arrache-Cœur. Et après la musique, maintenant, place à la conférence.
Alors, bienvenue à cette conférence que nous avons intitulée
« La diversité est-elle une variable d'ajustement pour un nouveau langage théâtral non-genré, multiple et unitaire ?»
Alors, cette conférence est placée sous le haut patronage du ministère de la Culture, de la Francophonie.
Et merci aussi à vous, hein, Gustave Akakpo, Métis Navarro et Amina Gina, d'avoir accepté de discuter avec nous de ces questions brûlantes, urgentes et nécessaires pour reprendre le texte de la pièce, d'avoir accepté donc de faire un petit détour par le studio de VMDN ici au Conservatoire d'Avignon, que je remercie encore évidemment de nous accueillir. Alors ici, on a une table en U. Hein. Au 11, vous êtes alignés tous les trois en front de scène, en randonnion face au public. La femme au milieu des deux hommes, forcément, Betty Navarro.
Forcément, ouais, c'est une question esthétique, mais c'est déjà un niveau de confrontation, peut-être.
Oui, c'est pas au hasard, effectivement, que vous êtes placé. Et on sent d'ailleurs, dès le tout début, que dans ce trio, ben, vous êtes minoritaire.
Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des invités.
Honneur aux dames.
Bien sûr, bien sûr.
Non, je vous en prie. Honneur aux étrangers.
D'accord, très bien.
Gustave, je
pense que c'est à vous.
Ouais.
En Afrique, nous nous faisons le devoir de rendre honneur à l'étranger.
Ah, et toc, hein. Dès le début, le malaise est là. Hein. On sent que les trois personnages se donnent quelques petits coups de griffe, que les sourires de façade, la vraie fausse convivialité cachent un début de rivalité. Et c'est bien ce qui va se passer, hein, puisque les trois auteurs dramatiques que vous êtes aspirent tous les trois au même poste, le poste de meilleur représentant de la diversité, rien que ça, et que la campagne électorale, puisqu'il va y avoir un vote d'ici la fin du spectacle, ne fait que commencer. On va y revenir, mais auparavant, l'idée même de ce spectacle, Amina Gina, elle vous est venue en 2018 lors d'un festival, vous êtes rencontrés, c'est comme ça que ça a commencé ?
Alors en fait, elle nous est venue à tous les trois, ensemble, c'est vraiment une idée qui est née de cette rencontre où on a été invité au cours d'un festival, les haut-parleurs organisés par un collectif qui s'appelle Hameau Découvert. Et la thématique, en fait, ils organisent des brigades d'auteurs, ils invitent des auteurs dramatiques, et ils nous avaient invités. Une des thématiques, c'était la diversité. Et quand on s'est regardés tous les trois, qu'on s'est retrouvés, on ne se connaissait pas, ça il faut le dire. Et on ne connaissait pas nos écritures non plus. Et on s'est dit, tiens, c'est drôle, ils ont pensé à nous pour la diversité. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de leur répondre.
Et ce spectacle, c'est la réponse.
Et ce spectacle, c'était la réponse. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu une première chose qui a été élaborée, le modèle de la conférence et de l'élection. Et il y a eu la réception en fait de cette chose qu'on a proposée. On s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à pousser, et c'est comme ça qu'on s'est engagé dans ce spectacle tous les trois.
Alors pourquoi justement la forme de la conférence, Gustave Akakpo?
Elle s'est imposée à nous comme une évidence, dans le sens où c'est la question de la diversité, il fallait la décortiquer, donc en parler, la conférence. Et tout de suite, on s'est dit, on va l'aborder par le biais de l'humour. Enfin, on ne se l'est pas dit comme ça, mais très vite, on dit, alors, OK, une conférence, alors il faut que ça fasse bien conférence.
Oui. On navigue en fait entre le sérieux et le décalé.
Donc on a essayé un titre très long, à rallonge, avec tout ce qu'on peut trouver de politiquement correct, allez, on le fout dedans et puis on y va, quoi.
Bon, alors justement, comment est-ce que vous avez écrit? Parce que écrire à trois, c'est pas évident. C'est la première fois, Métis Navarro?
Oui, c'est la première fois, et je crois que c'est quand
pour
même...
Pour tous les trois.
Oui, pour tous les trois, et je crois que c'est quand même assez rare. Enfin, écrire à deux, ça se fait un peu, à trois, c'est encore un autre...
À trois, ça devient compliqué, hein. Alors comment on fait? On se partage le travail, on fait des grandes séances de brainstorming qui durent des heures et des heures toute la nuit, comment on fait?
Nous, on peut vous dire comment on a fait, nous, oui. Mais en fait, on s'est réunis.
C'est ce qui m'intéresse. Oui, voilà.
On s'est réunis, en fait, ça a été très simple. Ce qui était assez singulier dans le processus, c'est que c'était très simple, on ne s'est pas dit beaucoup de choses, on n'a pas posé une méthode vraiment de travail.
Ouais.
On a parlé de cette question de la diversité, de ce que ça a quand même éveillé chez nous sur le plan politique, ce dont on avait envie de parler, de la question de la conférence, de la forme. Et après, en fait, la plupart du temps, on a écrit dans une même pièce, ensemble. Donc les parties de conférences notamment, celles qui sont vraiment communes. Et il est arrivé parfois qu'on se donne des sortes d'exercices, qu'on travaille ensemble sur un exercice d'écriture, répartition de la parole. Et dans quelques cas, on s'est donné aussi un texte à écrire chacun et de revenir avec et de le reprendre ensemble.
Mais donc tous les mots qui sont dans votre bouche, Gustave Akakpo, c'est vous qui les avez écrits pour vous-même?
Non, c'est vraiment tissé.
Donc vous vous êtes glissé dans la peau et dans l'histoire de l'autre.
En fait, j'en garde un souvenir très ludique et très fort. C'est la seule fois de ma vie, et malheureusement, je pense que ce sera la seule fois de ma vie où j'avais l'impression d'avoir trois cerveaux.
Oui.
C'était assez jubilatoire. Parfois, c'est une idée. Quand on est écrivain, on se retrouve parfois devant sa page blanche et c'est pas qu'on n'a pas d'idée, c'est qu'on en a des milliards, on ne sait pas par où passer. Alors là, l'un a une idée et l'autre tout de suite dit « Ah ouais, mais non, mais en fait, si on faisait « Ah ouais, par rapport à ça » et tac, 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 et ça s'écrit. »
Parce qu'il y a des moments très intimes quand même. On a vraiment l'impression que vous parlez de tout ce qui vous constitue finalement, de A à Z. Ça doit être compliqué pour un auteur de confier cet intime-là aux mots de l'autre.
Pour les paroles intimes, je crois que ça concerne cette partie qu'on appelle la battle dans le spectacle. On s'est dit à quels endroits, sur les questions de la diversité, on n'est pas au clair avec nous-mêmes. Et on s'est vraiment confié cette parole. Et ensuite, les autres avaient toute la latitude de le prendre, de le transformer en arme de destruction intimiste et massive.
Oui, et vous y allez effectivement au canon, c'est le cas de le dire. Alors, la première partie du spectacle consiste quand même à présenter justement les trois auteurs qui sont en face du public, et dans le spectacle, c'est vous, Métis Navarro, qui présentez Amina Djina.
Vous êtes un auteur français musulman ou un auteur musulman français? Je ne sais pas au juste quelle est la formulation la plus exacte, celle que vous préférez.
Auteur français.
Il me semble pourtant que pour une meilleure compréhension de votre œuvre et de votre personne, il est important d'indiquer que vous êtes musulman, vous ne trouvez pas?
Je suis de culture musulmane.
Très bien, je corrige. Auteur français. On continue? Vous avez grandi dans une cité sensible du 93, en Seine-Saint-Denis, avec vos parents algériens venus en France pour fuir le terrorisme islamique.
Alors non, j'ai pas grandi dans le 93, mais à Paris, dans le 18e arrondissement pour être précis.
Ce n'est pas ce qui était marqué sur ma fiche, c'est étrange. Vos parents sont algériens, non?
Oui.
Ils sont bien venus en France pour fuir le terrorisme islamique?
Non, pas vraiment. Mes parents sont arrivés en France dans les années 70 pour y travailler. Ils ne pensaient pas rester au départ.
Comme beaucoup, j'imagine. Je continue. Très jeune, vous avez arrêté l'école et vous avez connu, comme vos nombreux camarades, un passé de petite délinquance. Vous avez rencontré de nombreux problèmes avec la police avant de découvrir le théâtre et de changer radicalement de voie.
Alors encore une fois, c'est complètement faux. J'étais à la fac jusqu'en master avant d'arrêter pour faire une école de théâtre et devenir comédien.
Vous n'avez jamais été délinquant ?
Non.
Vous êtes sûr ?
Évidemment.
Voilà, alors là, évidemment, on se dit que c'est très gros, on rit, évidemment, on se dit que c'est une caricature, mais on se dit aussi que ça sent un petit peu le vécu, quand même, Hamid Hajida. C'est une caricature, mais ça part de quelque chose de, que vous avez...
Non, mais vécu. En fait, c'est, disons que c'est toujours... c'est-à-dire que ce qui peut être... ce qu'on peut sentir parfois au départ...
Dans une interview, par exemple, parce que moi, en tant que journaliste, je me suis dit, ah oui, tiens, quand même, peut-être...
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que... on a été sauvé de quelque chose ou quelqu'un nous sauve. Ou,
ouais, il faut rentrer dans un moule qu'on a tendance à vous imposer.
C'est ça. Et puis d'un coup, d'avoir une histoire qui est préconstruite avant même que vous arriviez, que vous puissiez vous-même raconter, établir quelque chose. Et finalement, il y a des attendus ou des clichés, en fait. Et d'un coup, en fait, dans cette interview, ce qui est en jeu pour nous, c'est comment on arrive à, par l'humour, à détourner, à jouer de à la fois de ces attendus. Parce que, comme vous l'avez dit, en fait, c'est un jeu de miroir, en fait. Il y a tout un jeu de miroir sur à la fois sur nous-mêmes, sur les projections qu'on pense que les autres ont de nous, etc. Enfin, c'est des miroirs qui se réfléchissent dans ce spectacle.
Nouvel extrait, cette fois, c'est vous, Hamid Hajida, qui présentez Gustave Akakpo.
France et partout dans le monde. Au Tarmac, scène internationale francophone, au Festival des Francophonies de Limoges, à Africajar, au Festival Plume d'Afrique, à Africologne, à Africa à Vienne, à Nous sommes tous Africains à Prague, au Festival Bon Baiser d'Afrique, au Festival L'Afrique à Bagnols-sur-Cèze, au African Art of Dakota, et bien d'autres, la liste est longue. Alors comment vous définiriez-vous ? Auteur africain, écrivain de langue française ou auteur tout court ? Et pourquoi avoir choisi d'écrire en français alors que vous auriez pu le faire dans votre dialecte, le Mina, c'est ça ? D'ailleurs, vous pourriez nous dire quelques mots en Mina ?
Oui, s'il vous plaît.
Mais juste quelques mots.
Dites-nous juste quelques mots.
Ok, bon. Nengbado gangbacha, mi ma se gomu ba. Ok, ma doué. Loa le miadea, a miawezon lo. Miadea gombe nende la mebe jijia, a mebe gbemeyo gronele. Donc a wotroya, jojinambe mi ba do wotroya. Loa nya kumilale, nya kwaku, nya torwe torwe, nya veve, nya minjibe, mia kweme.
C'est très beau, hein, merci.
Voilà, merci Gustave Akakpo, qui a un peu tendance dans le spectacle à s'étaler. Il prend beaucoup de place par les mots. En tout cas, en fait, on a entendu là, au début de l'extrait, dès qu'il y a le mot Afrique, vous n'êtes pas loin.
Ouais, c'est ça. Akakpo, hein,
c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on entend souvent dans le monde de la culture, dans les médias aussi, ouais. On entend toujours parler des écrivains d'Afrique ou des écrivains africains, alors qu'on entend rarement parler des écrivains européens ou des écrivains asiatiques.
Oui.
Comment vous expliquez ça ?
Comment je l'explique ? Je l'explique par le regard auto-centré, occidentalo-centré, en tout cas franco-centré, de cet universalisme. Et donc, qui fait que pendant très longtemps, la France se voit au centre de la francophonie, alors qu'il n'est qu'une des archipels aujourd'hui. Et ça passe aussi par ces endroits, pour moi, ça pose des vraies questions de circulation, c'est-à-dire des lieux qui sont des lieux de visibilité, qui sont aussi des espaces de visibilité, parce que c'est parce qu'on est invisibilisé qu'on a besoin de ces espaces-là, comme il fut un temps le Festival des Francophonies, le Tarmac, etc. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ces lieux-là, mais ces espaces qui sont des lieux où doivent se voir les gens qui ne se voient pas d'habitude, deviennent dans l'esprit de ceux qui n'ont pas plus d'ouverture que ça, le seul endroit où on cantonne les gens qui viennent de ces endroits-là.
Un ghetto.
Un ghetto, voilà. Un ghetto. Alors que le ghetto, c'est comme quand on parle de la communauté, en réalité, quand on prend l'assemblée, le vrai ghetto, c'est le ghetto des vieux blancs qui se retrouvent, je caricature, des vieux blancs qui se retrouvent entre eux. C'est pas le ghetto, c'est pas quand, par exemple, des Noirs ou des Asiatiques se disent, nous, si on a besoin d'exister, c'est pas eux le ghetto.
Allez, on rappelle le thème de la conférence.
La diversité est-elle une variable d'ajustement pour un nouveau langage théâtral, non genré, multiple et unitaire ?
Alors, comment est-ce que vous avez appréhendé le mot diversité, Métis Navarro ?
Eh bien, je pense que quand on s'est rencontrés, je ne sais pas si c'est... j'ai l'impression que maintenant, le terme est complètement rentré dans le langage. Donc, c'est un peu différent. Mais quand on s'est rencontrés en 2018, c'était quand même un terme institutionnel qui commençait à être assez présent et donc prenait de la place. Et il nous semblait à nous qu'il a à la fois... Enfin, ça rejoint un peu ce que disait Gustave. C'est-à-dire qu'il a une certaine nécessité puisqu'il va avec toute l'idée que, par exemple, il faudrait des quotas... pour visibiliser un certain nombre de personnes, d'acteurs, auteurs qui, d'habitude, n'apparaissent pas ou ont dû faire des chemins beaucoup plus compliqués pour arriver aux mêmes endroits que les autres. Donc ça, c'était le bon côté de cette présence de la diversité. Et de l'autre, ça nous semblait aussi être un terme institutionnel qui peut servir à dissimuler le fait que dans le fond, il y a aussi des problèmes fondamentaux de la société française qui ne bougent pas trop, quoi. Donc il y avait cet équilibre-là. Et puis, d'autre part, ce que disait, là je rejoins Gustave, le fait que quand on est un auteur maintenant de la diversité, sachant que la diversité dans ce sens-là, c'est être issu des minorités visibles, c'est pas tellement autre chose que ça, on se retrouve assez vite prisonnier de cette case, quoi.
Et la question de la femme, ça fait partie de la diversité, parce que c'est pas une minorité, les femmes, c'est plutôt la majorité, en l'occurrence, dans la population.
Oui, bah ça, vous le dites, vous avez raison, oui. Mais,
c'est indéniable, pour le coup, c'est mathématique. C'est,
effectivement, la diversité, je sais pas si la question de la femme rentre exactement dans la question de la diversité, mais elle la rejoint par bien des endroits. Donc, de la même manière qu'il peut y avoir des quotas, ou des chiffres, ou des choses pour mettre en avant... Et aider en fait à aller vers une parité qui devrait être normale, et ben ça peut aussi parfois créer des déviations et surtout le sentiment pour des personnes de n'exister qu'à travers ça.
Alors tout ce que vous venez de dire là depuis quelques instants, eh bien vous le dites à travers les textes de vos personnages, mais aussi à travers la dimension participative qui est vraiment au cœur de la mise en scène. Une partie importante de la conférence, c'est la restitution de contributions du public, sont de vraies contributions.
Oui,
complètement. Oui. Hein, donc rien n'est inventé. Donc vous avez posé des questions à un certain nombre de spectateurs. Il y a un temps d'échange aussi avec le public. Vous posez des questions, les gens lèvent la main, ce qui les amène pendant quelques secondes à réfléchir à leur origine, à la façon dont ils se sentent représentés, à leur sentiment d'appartenance à une communauté ou à la société, à la société politique nationale en particulier. Et puis il y a le vote. Chaque spectateur choisit donc entre vous trois quelle est celle ou celui qui incarne le mieux la diversité. Pour faire ce choix, vous en parliez tout à l'heure, vous vous livrez à une bataille affleurée de moins en moins mouchetée. Petit extrait du débat, vous avez d'ailleurs employé, je crois, tout à l'heure le mot « battle ».
Voici ma pièce d'identité. Je suis français. Je crois savoir que vous aussi, Métis. Peut-on dire autant de vous, Gustave ? D'après la constitution de ce pays, votre pays d'accueil donc, toute personne qui souhaite se présenter à une élection doit posséder la nationalité française. Avez-vous vos papiers ?
Je voudrais parler de la honte, qui est un sentiment que je connais, que j'ai pu connaître, que nous avons tous certainement ici éprouvé. Mais j'ai l'impression que chez vous, Métis, ce sentiment n'a pas encore été dépassé. La relation complexe que vous avez avec votre père et plus encore avec ses origines. Cette grand-mère qui venait de Madagascar et dont vous aviez honte. L'accent de votre mère que vous souhaitiez cacher, etc. Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de régler ces problèmes identitaires avant de vouloir représenter les autres ?
Quand on a des parents qui n'ont jamais fait le moindre effort pour s'intégrer, qui n'ont pas un seul ami français blanc, qui pendant 40 ans de vie en France se sont contentés de vivre entre Algériens, alors même qu'ils parlent parfaitement français, est-ce qu'on peut sortir d'une manière ou d'une autre de ce schéma communautariste ?
Être représentant, c'est aussi devoir parler au nom de tous, prendre position, aller parfois contre vents et marées. Mais ce qui
alors, on est au tout début du débat, hein, et là, il y a déjà quelques coups bas, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça va s'emballer, ça va devenir de plus en plus impressionnant, j'allais dire, de plus en plus sanglant. Bon, là, vous êtes des personnages, vous êtes dans un rôle, mais est-ce qu'il n'y a pas des mots quand même qui peuvent blesser ?
Ah bah ça n'a pas été un exercice
simple. J'imagine,
hein.
Oui.
Mais je pense que pour le résumer, c'est quand on a eu l'idée de la conférence, dans un premier temps, il y avait pas mal de choses. Il y avait l'élection, le ton décalé, la critique un peu de termes institutionnels. Et à un moment, on s'est dit, ça ne peut pas être que drôle, en fait, cette question de la diversité. Pour nous, elle nous traverse. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on s'expose, en fait, nous-mêmes. qu'est-ce que ça éveille, qu'est-ce que ça évoque, par quoi on est passé. Et donc, bon, il y a eu cet exercice d'écriture, on s'est livré des choses que, enfin, en tout cas, je pense, moi, je n'avais jamais dit à personne.
Oui.
Et on se les a renvoyées par
l'écriture. Vous dites directement sur une scène, directement à un public.
Oui, mais après, il y a eu un travail d'écriture,
oui,
quand même.
Oui, c'est ça, c'est que ça passe par le filtre. Et
d'une autre personne.
Et puis surtout, c'est, tout est écrit par l'autre. C'est-à-dire qu'on a confié des choses, et après, la liberté était donnée à l'autre. Et ça, c'est possible uniquement parce qu'il y, a une, il y avait très vite, et au fur et à mesure de l'écriture, une grande confiance entre nous. Oui. Mais en fait, c'est passé par le fil de à la fois de l'exagération, de la déformation pour atteindre une forme, parce que, comme vous le dites, il y a une forme de crescendo, et d'aller de plus en plus loin dans la cruauté, mais et d'atteindre une forme de catharsis, en fait. C'est-à-dire de traverser la question de la violence qui est à l'œuvre, en tout cas qu'on voulait traduire, mais théâtralement, à l'œuvre dans les débats, aujourd'hui, dans la façon dont les gens se parlent, etc. Et il y avait pour nous, en tout cas, de comment on arrivait à le faire sentir, à la fois en confiant des choses intimes, mais déformées, donc qui deviennent, entre guillemets, de la fiction aussi, parce que travailler par l'écriture... Et etc. Et d'un coup, le public assiste et devient le spectateur de ce moment-là, et qui devient une sorte d'étape un peu charnière dans le spectacle.
Voilà, et le spectacle, évidemment, produit pour le public davantage de questions et de questionnements qu'il n'impose, de réponses et d'engagement, Gustave Acacpo.
Oui, tout à fait. Bah, pour nous, c'est un... Bon, ça peut paraître comme bateau de dire je fais du théâtre pour poser des questions, pas pour apporter des réponses. Mais sur ce sujet-là, tiens, je reviens juste à ce que vous disiez avant.
Allez-y.
Sur le formulaire. En fait, c'est un spectacle participatif, mais pas dans l'immédiat, puisque en fait, le public remplit un formulaire. Donc les réponses, on en fait une synthèse.
Oui.
Donc pour nous, c'est important d'avoir justement cette diversité de réponses, de points de vue, qui font que finalement, avec ça, on ne peut pas avoir une réponse. Le but du spectacle, justement, c'est de ne pas avoir de réponse, mais de voir dans les points de frottement quelles lignes on peut essayer d'emprunter, de cheminer ensemble, ne serait-ce que le temps du spectacle et au-delà, si ça continue à trotter dans la tête des gens.
Et vous, personnellement, est-ce qu'il y aura un avant et un après? Est-ce que ce spectacle-là, ce travail que vous avez fait sur vous-même et que vous avez partagé avec les autres, a changé le regard que vous portiez sur vous, personnellement, intimement? Métis Navarro, peut-être.
C'est une question intéressante. Enfin, je ne sais pas si ça a changé le regard que je porte sur moi, mais en tout cas, ça m'a donné la possibilité de parler de choses en les transformant, que je pense que je n'aurais pas évoqué dans d'autres pièces. Enfin, ce n'est pas du tout la manière que j'utilise pour écrire habituellement. Et du coup, la possibilité créée par notre rencontre d'aborder ce sujet par des biais différents, ça, c'est assez, c'est très spécifique, quoi, dans ce que je fais.
Merci. Merci beaucoup à tous les trois, Métis Navarro, Gustave Acacpo, Amina Gina. La diversité est-elle une variable d'ajustement? C'est au 11, ici, à Avignon, à 20h30, relâche les mardis.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Nous avons beaucoup parlé théâtre depuis le début de la semaine dans l'émission, mais le Festival d'Avignon, ce n'est pas que du théâtre. Il y a par exemple aussi de nombreux spectacles de danse, celui dont notre reporter Fanny Blechner va nous parler à présent, prend ses racines en Afrique du Sud. Il s'appelle Via Njabulo, ce qui veut dire joie en Zoulou, et c'est à l'Université d'Avignon, de la Cour Minérale. Allez, en rythme.
On pourrait croire un ballon de magicien qui se gonfle d'air avant de se tordre dans toutes sortes de postures. Ce sont les premières secondes du spectacle, une première partie intitulée « Form in Forms » et signée du chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira.
Oui, je voulais travailler avec l'idée de tension, de quelque chose qui a besoin de s'ouvrir au souffle, comme une plaie qu'il faudrait ouvrir pour qu'elle puisse s'aérer et mieux cicatriser. Et c'est ce qu'ils font sur scène. Ils ouvrent la scène pour la laisser un peu mieux respirer. Ils réclament cet espace.
Cela se traduit par les corps, mais aussi par les visages des 8 danseurs dont les joues se gonflent d'air.
Je voulais des éléments assez basiques en tant qu'instrument, comme le corps qui peut faire office de percussion et qui peut aussi être la trompette. Pour moi, le son doit être lié à ça.
Puis le rythme s'intensifie, des jeux de jambes ultra rapides qui claquent au sol. Les mouvements sont inspirés de la pansula, une danse contestataire née en Afrique du Sud dans les townships pendant l'apartheid. Mais c'est plus que ça pour Tato Kofela, l'un des danseurs.
Mais ce n'est pas qu'une danse, c'est aussi une tradition, une culture, une façon de vivre. Mais en Afrique du Sud, on pense souvent que si tu pratiques la pansula, tu es un criminel. Donc on essaye d'éloigner cette pensée négative, cette énergie négative, pour en faire quelque chose de positif sur scène.
La compagnie sud-africaine Via Katleong travaille justement à la reconnaissance officielle de cette danse. Ici, le chorégraphe a invité chaque membre de l'équipe à se pencher sur ses blessures, ses cicatrices, explique Lungile Paulette Machlaung.
Par exemple, ma cicatrice à moi, c'est que j'ai été beaucoup rejetée à cause de ma morphologie. En tant que femme sud-africaine, mais aussi dans l'industrie de la danse, on est censé être mince, mais en fait, on a des formes. Dans la première partie, je devais montrer mes cicatrices. Ça m'a vraiment libérée. Et puis, avec mon costume, je me sens tellement à l'aise. Porter un string qui dépasse, un haut court, un pantalon ouvert sur le côté, et en plus, je ne pense même pas à la façon dont les gens pourraient me juger.
La nouvelle génération sud-africaine, ses préoccupations, ses joies, ses habitudes aussi, c'est ce qu'a voulu donner à voir le chorégraphe Amala Dianor, qui signe la seconde partie du spectacle, qui sonne comme une libération. On y voit les mêmes danseurs, arrivés avec des glacières et des boissons et de la musique, comme a pu l'observer sur place le chorégraphe français, invité lui aussi par la compagnie.
Ils s'asseyent dehors, tout le monde vient dehors, et ils écoutent de la musique dans les coffres des voitures, et ils passent des heures et des heures et des heures et des heures à boire, à s'amuser, à discuter, à danser. Et tout ça est accompagné de la musique, d'amapiano. Et ce qu'on a vu là ce soir, c'est exactement les mêmes choses qu'on trouve naturellement en Afrique du Sud.
Aujourd'hui, la danse pansula a évolué, se retrouve aussi dans les boîtes de nuit. L'ambiance est festive, les danseurs communiquent avec le public et n'hésitent pas à monter dans les gradins.
Par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est cette envie à chaque fois de se retrouver et de passer du bon temps ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je connais par rapport à la culture hip-hop, où on arrive, on prend plaisir à se retrouver, à danser, à chanter, à rapper. Et c'est comme si j'étais revenu 20-30 ans en arrière avec ce projet.
Et cet esprit de partage n'a pas manqué de gagner le public. Il flottait ce soir comme une envie collective de s'amuser.
Jusqu'à dimanche 17 juillet à 22h dans la cour minérale de l'université d'Avignon. Et puis un rendez-vous dès ce soir, le lancement des lectures de RFI avec une soirée unique pour fêter la 10e édition. Soirée pensée comme un palabre pour raconter comment l'Afrique s'est racontée elle-même par son théâtre en une décennie avec Dieudonné Nyanguna, Kofi Kwaoulé, Odile Sankara, Sadjro, Giovanni Wansou et quelques autres. Soirée à suivre dans quelques minutes en direct sur la page Facebook de RFI. Dans un instant, le journal. On se retrouve demain pour continuer à explorer la diversité de la programmation du Festival d'Avignon et vous m'en direz des nouvelles. Thank you.